France Inter. L'inconscient est un podcast interactif. Enregistrez vos questions à l'issue de cette écoute par note vocale sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Et pour écouter les réponses, rendez-vous sur l'antenne de France Inter tous les dimanches à 16h et à 22h. Avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec David Gourion.
Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme pour ce qu'elle est. Infini. William Blake. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet particulièrement intrigant et fascinant en tentant de répondre à la question suivante. Les drogues psychédéliques peuvent-elles ouvrir les portes de nos inconscients ? Béatitude, révélation, illumination, plongée dans les méandres de la psyché, réminiscence de mémoires oubliées, parfois même, hélas, bad trip, traumatisant. Et pourquoi la recherche actuelle d'ailleurs se passionne-t-elle pour les psychédéliques ? Peuvent-ils, comme l'étymologie grecque du mot l'indique, psyché égale esprit des lots rendre visible, révéler ce qu'il y a au plus profond de notre inconscient ? Quand la thérapie classique échoue, peut-on les envisager comme thérapeutiques de dernier recours ? À quel prix et avec quel danger? Après tout, les drogues psychédéliques sont actuellement déclarées illégales presque partout dans le monde, y compris évidemment dans notre pays. Mais alors comment se fait-il qu'elles soient désormais étudiées dans les centres de recherche médico-universitaires les plus prestigieux au monde? Nous y reviendrons, mais laissez-moi, si vous voulez bien, d'abord vous parler d'une patiente que j'aime beaucoup, Marie, une patiente que je connais depuis longtemps, souffrant depuis de très longues années d'une terrible angoisse de la mort et d'une dépression absolument dévastatrice, et toujours présente en dépit d'une longue thérapie, qu'elle attribuait d'ailleurs en partie en tout cas à une sévère maltraitance durant l'enfance. Durant les premières années de son suivi, Marie elle-même, médecin, envisageait, je dois le dire, quasiment le recours à l'euthanasie. Je la cite, elle disait « La souffrance est trop forte, docteur, comprenez, je n'en peux plus » parce que parfois la dépression, pour ceux qui l'ont vécu, eh bien la souffrance peut être absolument insupportable. Et puis Marie a rencontré, il y a quelques mois, une équipe de chercheurs universitaires suisses qui lui ont proposé une thérapie assistée sous psychédélique. Je vais vous raconter un petit peu cette aventure assez incroyable. Vous allez pouvoir le constater par vous-même, sa vie a radicalement changé.
L'inconscient avec David Gourion sur France Inter.
You here for some acid?
Yeah, I guess so. I really think that I'll find out something about myself.
Lors d'une séance récente à mon cabinet, j'ai demandé à Marie, en préparation de cette émission, de bien vouloir, si elle l'acceptait évidemment, revenir en détail sur son expérience thérapeutique avec la psilocybine, un champignon aux propriétés psychédéliques puissantes que certains connaissent communément sous le nom de champignon magique. Ma question a été la suivante. Marie, pourriez-vous s'il vous plaît me décrire ce que vous avez ressenti minute par minute et comment cela vous a aidé ? Et voici la retranscription fidèle de sa réponse. Bien sûr docteur, j'y vais vous raconter. J'allais très mal depuis longtemps et j'appréhendais la prise de psychédéliques que mon entourage me déconseillait évidemment. Tout le monde était très inquiet autour de moi. Moi, j'étais au bout de toute façon, et puis j'ai décidé de faire confiance à l'équipe de chercheurs avec laquelle vous m'aviez mis en contact. Ils m'avaient tout bien expliqué, rassuré, préparé à ce que j'allais vivre. C'était à l'hôpital, on m'a installé dans une salle calme et agréable, et l'on m'a expliqué à quel point l'environnement, le setting, c'est-à-dire le cadre, est important. Les soignants étaient très attentifs et bienveillants, et j'ai pris le traitement et ils sont restés à mes côtés durant toute la séance et même après. Pendant la session qui a duré plusieurs heures, les effets de la psilocybine sont apparus progressivement. Dans les premières minutes, j'ai commencé à ressentir un sentiment de légèreté et de détente. Mon esprit était plus calme que jamais. Ensuite, environ 20 minutes après la prise, j'ai commencé à percevoir des couleurs plus vives que je n'avais jamais vues ainsi. Par exemple, le violet des pétales de fleurs sur une couverture de magazine qui traînait là, était très particulier, extrêmement intense, fascinant. C'est un violet plus violet que tous les violets que je n'avais jamais vus. Les perspectives de la salle ont commencé à changer, à être différentes, plus allongées. Même l'air, l'atmosphère, semblait avoir une densité inhabituelle. Je percevais des motifs cachés dans l'environnement, mais ce n'était pas des hallucinations, c'était très subtil. C'était comme si mon esprit s'ouvrait sur de nouvelles perceptions. On m'avait bien dit que j'aurais l'impression de redécouvrir le monde avec un œil neuf. C'était exactement ça, magique. À ce moment-là, il s'interrompt et son regard se perd. Marie, moi je la connais depuis très longtemps et maintenant que je l'observe, je me rends compte qu'en réalité, je ne lui avais jamais vu ce visage apaisé. Jamais. Elle semble rêveuse, avec un léger sourire. Je vois bien qu'elle est en train de se repasser le film de ce qu'elle a vécu dans sa tête. Elle n'est plus tout à fait là avec moi, elle semble si bien. Au bout d'un petit moment, je finis par lui dire « Marie, pardonnez-moi de vous faire revenir ici avec moi, mais pourriez-vous aussi me dire comment vous vous êtes sentie à l'intérieur de vous-même à ce moment-là ?» Tout d'un coup, son regard se rallume et elle me répond « Docteur, c'est là que ça devient vraiment super intéressant. À mesure que les couleurs devenaient plus intenses, il y a eu une grande vague d'émotions. En fait, un vrai tsunami. C'est comme si les murs de béton que j'avais construits autour de mes émotions depuis très longtemps s'effritaient. J'ai ressenti aussi une tristesse insondable, une peur de malade, mais aussi une compassion qui montait en moi, envers moi-même, et puis une joie extrêmement puissante, comme celle que l'on ressent dans l'enfance. Et puis tout ça s'est mélangé en fait. C'est absolument dingue, comment vous le dire avec des mots, s'il fallait résumer, mais c'est vraiment extrêmement pauvre ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à ce que j'ai vécu, tellement c'était riche et dense et ultra complexe. Il y a eu une peine insondable pour la petite fille que j'étais. Vous connaissez mon histoire, mon cousin, qui m'a violé et complètement bousillé quand j'avais 7-8 ans. La gamine qui avait tellement souffert et se détestait à se taper la tête contre les murs. Et puis j'ai vu aussi l'ado que j'étais, qui était en colère contre le monde entier, à se taillader les poignets, les cuisses et les seins, je vous avais raconté tout ça. Et puis la jeune femme, et puis moi maintenant, je la voyais dans plein de moments de ma vie, jusqu'à maintenant, comme dans un film en super accéléré. En fait, toute mon histoire s'est déroulée là, comme ça, sous mes yeux. J'avais jamais vécu ça, jamais. Mais en plus, ce qui était très particulier, c'est que tous ces souvenirs avaient un sens très différent, très profond, comme si je comprenais tout à un niveau de lucidité que je n'ai jamais d'habitude, comme si je me réveillais d'un long sommeil et pouvais tout connecter, tout comprendre à toute vitesse. Les souvenirs, les gens, le pourquoi et le comment de leur comportement, la façon dont j'avais construit une vision absolument dégueulasse de moi-même et du monde. Tout ça pour préserver la réputation et la façade sociale de ma famille, et même de le protéger, lui, ce connard. Tout s'imbriquait, s'illuminait. Je faisais des liens à toute vitesse, c'était tellement fluide et facile. Ça allait tellement vite, c'était magique, il n'y a pas de mots. Et puis, je dois le dire, mon ego a foutu le camp durant 3 heures, et ça, ça fait un bien fou. On comprend, quand on le vit, ou plutôt on ressent, qu'on est qu'une sorte de nuage de poussière d'étoiles, qu'on fait un tout avec l'univers. Que seuls les liens comptent, c'est bête à dire, mais il n'y a que l'amour en fait, on le ressent dans ses tripes, ça c'est hyper puissant, hyper soulageant, et on s'en souvient toute la vie. Et d'ailleurs, je n'ai absolument pas besoin de reprendre de substance. D'ailleurs, je n'en ai pas envie. Maintenant que je le sais au fond de moi, c'est ancré. Je ne sais pas comment vous dire mieux que c'était une sorte de super psychanalyse accélérée, super efficace, rien à voir avec celle que j'avais suivie sur près de 30 ans. Comment vous dire? C'était mystique, mythique, et ça m'a sauvé. Alors, au-delà de l'enthousiasme communicatif dont Marie fait preuve, c'est une observation extrêmement précise et précieuse qu'elle nous livre et qu'elle en soit remerciée vivement ici. L'ouverture perceptuelle et émotionnelle associée à une grande fluidité psychique et à une dissolution de l'ego sont les ingrédients thérapeutiques de base des expériences psychédéliques permettant aux individus de se confronter à des émotions refoulées dans des lieux inaccessibles de l'inconscient. Je lui demande évidemment comment cela s'est passé ensuite. Voici sa réponse. Au fur et à mesure que le temps passait, ces moments de ma vie que je revivais se présentaient sous la forme parfois de métaphores ou de symboles. J'ai compris que certaines de mes croyances négatives sur moi-même avaient été façonnées par ces expériences passées. Les médecins m'avaient expliqué que si une vision effrayante survenait au cours de la séance, plutôt que de la fuir, je devais absolument foncer sur elle, la prendre dans mes bras et lui demander ce qu'elle voulait me dire. Et c'est précisément ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que j'ai vu un serpent géant, immense, qui s'enroulait autour de moi et emprisonnait mon cou. Et au départ, c'était vraiment épouvantable, effrayant. Et j'ai compris que ce prédateur, c'était lui, c'était mon cousin. Alors j'ai fait ce qu'on m'avait dit. J'ai pris doucement sa tête entre mes mains. Et c'est trop bizarre, mais je vous assure que j'ai regardé droit dans ses yeux et que j'y ai vu des larmes et de la peur. Et puis subitement, il s'est dégonflé comme un ballon. D'énorme, il est devenu tout petit, tout fluet, et il a disparu dans l'ombre. C'est devenu une sorte de tout petit lézard sans aucune importance. Et puis, j'ai marché dans la pièce. Il y avait d'autres monstres effrayants qui représentaient tous mes traumas et tous ceux qui m'avaient fait du mal au cours de ma vie. Et quand je marchais vers eux, eh bien eux aussi, ils se dégonflaient. Et à la fin, dans cette pièce, il n'y avait plus que moi. Rien que moi, je n'avais plus peur du tout. J'avais un sentiment d'euphorie. Il n'était rien, rien, plus rien. Quelque chose s'était apaisé à un niveau très profond en moi. Mais avant de continuer à cheminer avec Marie, que savons-nous au juste des psychédéliques aujourd'hui ? Les recherches récentes sur les psychédéliques ont révélé que ces substances, que sont principalement le LSD, la psilocybine, la MDMA et la mescaline, mais il y en a d'autres, peuvent provoquer des états altérés de conscience, dévoilant des strates profondes de l'inconscient. Imaginez que nous puissions explorer notre propre psyché comme si nous naviguions dans un rêve éveillé, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles.
Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a senti sa nuque s'alourdir, puis elle a commencé à voir le tapis grouillé de serpents. Jean, ensuite, a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. C'était merveilleux, puis c'était la tempête. 4 heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD.
Ces substances nous confrontent à notre propre subjectivité, brouillant les frontières entre le moi et le monde extérieur, nous rappelant que la réalité n'est qu'une construction de notre esprit. Elle nous offre une expérience de dissolution de l'ego, une plongée dans l'inconnu, où la frontière entre le conscient et l'inconscient devient floue. En tant que médecin et scientifique, je ne peux m'empêcher de souligner que ces expériences psychédéliques ont un fondement biologique. En activant de façon très puissante le système de la sérotonine, elles modifient temporairement les réseaux neuronaux, créant des connexions inédites entre les régions cérébrales et même une hyperconnectivité. Cela peut expliquer les visions, les perceptions altérées et les insights profonds, les sentiments d'introspection philosophique profonde qui accompagnent souvent ces voyages. Le père de la psychanalyse himself, Sigmund Freud, nous a offert au début du XXe siècle une carte extraordinaire pour explorer l'inconscient à travers les rêves, les actes manqués, les lapsus. Et pourtant, malgré ses avancées, ses découvertes, il reconnaissait lui-même n'avoir jamais pu pénétrer totalement cette obscurité. Il avait une forme de modestie et il faut la conserver en tant que scientifique. Et c'est ici d'ailleurs que l'utilisation médicale des psychédéliques associés à des techniques de neuroimagerie cérébrale puissantes font aujourd'hui leur entrée en scène et que les neurosciences viennent ajouter des pièces au puzzle. Le mot lui-même, psychédélique, nous l'avons vu, signifie qu'il révèle l'âme. Ce mot a été inventé en 1957 par un psychiatre, le docteur Humphrey Osmond, lors d'un échange de poèmes avec le légendaire Aldous Huxley.
J'ai pris la mescaline une ou deux fois et c'est une chose vraiment très extraordinaire parce que on fait l'exploration d'une terra incognita de l'esprit. On se rend compte qu'on porte avec lui une espèce de continent noir, une chose qu'on ignorait totalement. Et on trouve tout à coup ce monde qui ne ressemble en rien au monde ordinaire.
Et l'histoire même de la découverte des psychédéliques est absolument captivante. Le début de leur découverte, ou plutôt redécouverte, car leur utilisation est très ancienne, nous ramène au 16 avril 1943, à Bâle, en Suisse. Albert Hoffmann, un chimiste, comment dire, extrêmement curieux et quelque peu intrépide, travaillant pour les laboratoires Sandoz, fait une découverte littéralement hallucinante, pardonnez-moi du peu, en se contaminant par erreur avec un dérivé de l'acide lysergique. Il s'envole dans une sorte de nuage de bulles d'euphorie provoqué par l'ergot de seigle, un champignon qui pouvait se faufiler dans la farine et causer le célèbre mal des ardents ou feu de Saint-Antoine du Moyen-Âge. L'expérience l'intrigue tant qu'il décide de récidiver. Il boit ce qu'il pense être une toute petite dose, soit 0,25 mg, ce qui s'avère en fait être une dose d'éléphant. Sa balade en vélo de retour chez lui vire alors au cauchemar, au bad trip, avec la plongée dans un univers effrayant et mystérieux à la Tim Burton, une sorte d'univers parallèle maléfique où sa voisine se transforme en sorcière malveillante au masque coloré. Comme il le dit dans son autobiographie, il ajoute « Toutes mes tentatives pour mettre fin à la désintégration du monde extérieur semblaient peine perdue. » C'est la naissance du LSD, la drogue hallucinogène qui deviendra absolument mythique dans les années 60. Quelques années plus tard, nous sommes en mai 1953, à Hollywood Hills. Le très fameux Aldous Huxley dont nous parlions décide à son tour de plonger dans l'expérience psychédélique en ingérant 400 mg de cristaux de sulfate de mescaline fournis par le bon docteur Osmond. À l'origine, la mescaline, extraite du cactus peyote, était utilisée lors de cérémonies amérindiennes, remontant même aux civilisations aztèques. Pour Huxley, ce fut une véritable révélation, une illumination esthétique et spirituelle sans précédent. Je le cite, « Ce qu'Adam a vu au matin de sa création, le miracle, instant par instant, de l'existence nue. » Un extrait de son livre « Les portes de la perception » qu'il faut absolument lire. Son livre deviendra le manifeste de la contre-culture des années 60, propulsant par là même la révolution psychédélique. En même temps, ici en France, l'artiste et poète Henri Michaud partage ses propres recherches sur les effets de la mescaline sur la conscience et la créativité. L'histoire continue quelques années plus tard au Mexique, en 1955, où le banquier et botaniste amateur Gordon Wasson découvre une communauté tribale utilisant, selon une tradition ancienne, des champignons hallucinogènes, les fameux Magic Mushrooms. Quelques années plus tard, Albert Hoffman, le fameux chimiste audacieux ayant synthétisé le LSD, isole le composé actif de ces champignons et le baptise psilocybine. Timothy O'Leary, un psychologue excentrique de Harvard, se met à promouvoir, à tort et à travers le LSD et la psilocybine aux États-Unis dans les années 60, allant même, de façon farfelue, jusqu'à suggérer de les diluer dans l'eau du robinet pour toute la population. La Beat Generation et les hippies se lancent alors à corps perdu dans cette nouvelle expérience. En France, également, de nombreux artistes, auteurs et philosophes s'essayent aux psychédéliques, de Jean-Paul Sartre à Antonin Artaud. Mais la lune de miel des psychédéliques en médecine connaît déjà son crépuscule. Malgré des études cliniques initialement prometteuses, notamment dans le traitement de l'alcoolisme, les psychédéliques commencent à traîner une réputation sulfureuse, en grande partie évidemment à cause des bad trips et des accidents qui peuvent survenir en dehors d'un cadre médical surveillé. C'est le début de la fin. Et sous l'impulsion du président américain Richard Nixon, qui observe évidemment d'un très mauvais œil la montée en puissance de la contre-culture, de surcroît en pleine guerre du Vietnam, eh bien les psychédéliques sont déclarés formellement illégaux à partir de la fin des années 60. Fin de l'histoire. Voilà, chers auditeurs, une histoire tourbillonnante, pour ne pas dire hallucinante, des psychédéliques, de leur naissance en laboratoire à leur ascension dans la contre-culture, pour finalement sombrer dans l'ombre. Mais l'aventure, en réalité, n'est pas totalement terminée pour autant. Car à la marge, Quelques scientifiques sans doute un peu anards sur les bords poursuivent discrètement les recherches thérapeutiques, bravant les interdits. Parmi eux, le psychiatre Peter Gasser étudie le bénéfice du LSD pour soulager l'angoisse de mort de patients en phase terminale de cancer. Les résultats, publiés en 2015, sont absolument étonnants, les patients semblant soulagés plus rapidement et plus efficacement qu'avec toutes les autres approches habituelles. Et ce, avec une seule prise. Surtout, ces études montrent qu'il est possible d'utiliser les drogues psychédéliques à visée thérapeutique, en toute sécurité, à condition de le faire dans un cadre médical bien précis. Et de fait, depuis quelques années, les psychédéliques font l'objet d'essais cliniques de plus en plus poussés, dont les résultats semblent prometteurs et qui ouvrent actuellement la voie à de nouveaux espoirs en médecine. Les données dont nous disposons à l'heure actuelle suggèrent de puissants effets antidépresseurs anxiolytiques, parfois à l'issue d'une seule prise ou de deux prises espacées, et un vaste potentiel thérapeutique pour le traitement du syndrome post-traumatique, les addictions sévères et pour soulager, nous l'avons vu, la détresse psychique des personnes en fin de vie. La médecine psychédélique est peu à peu en train d'émerger vers ce qui pourrait d'ici à quelques années représenter une alternative au traitement standard actuel dans certaines formes sévères et résistantes de troubles psychiques. Mais cela va prendre du temps, et en médecine, il faut vraiment savoir s'armer de patience. En effet, soyons extrêmement prudents et attentifs au fait qu'à vouloir aller trop vite, des utilisateurs imprudents en viennent à dévoyer l'utilisation des psychédéliques en dehors d'un usage médical, parfaitement encadré par du personnel spécifiquement formé et vigilant, ce qui risquerait de conduire à nouveau vers de terribles accidents. Qui a pris du LSD en quantité suffisante, sait qu'il est possible de voler, ou plutôt de croire qu'il est possible de voler, de sentir au plus profond de soi que l'on forme un tout avec l'univers et que partant de là, la mort n'est pas un bien grand désagrément. Et ça, c'est vraiment évidemment extrêmement dangereux s'il n'y a pas de surveillance adaptée.
Ketamine is a safe, legal psychedelic medicine.
Et aujourd'hui, nouvelle expérience. Je vais prendre du LSD quasiment tous les jours pendant un mois.
Ketamine is proven to help restore healthy brain signaling.
L'autre grand risque qui est déjà en train d'émerger est celui d'un nouveau Far West des thérapies assistées par psychédéliques, commercialisées sans foi ni loi pour une utilisation hors cadre médical. Et ce Far West a déjà commencé, notamment aux États-Unis, où des sociétés telles My Ketamine Home, WonderMed ou encore MindBloom commercialisent déjà, pour quelques centaines de dollars, des kits que vous recevez à domicile dans lesquels la prise de pastilles orales, notamment de kétamine, dont l'administration à domicile par le patient est prévue à l'issue d'une simple visioconsultation avec un thérapeute qui d'ailleurs le plus souvent n'est ni médecin ni psychiatre, et tout ceci se fait en dehors de tout contrôle médical et clinique, sans protection contre les différents risques. Les témoignages de patients que l'on peut trouver sur les différents blogs ne rassurent évidemment guère face à ces dérives mercantiles bien inquiétantes.
In the unlikely event that you experience a medical emergency, please call 911.
Du reste, de telles dérives pourraient vite provoquer des catastrophes qui conduiraient de nouveau, comme sous l'ère Nixon, à une nouvelle mise sous cloche de l'utilisation des psychédéliques en médecine pour les 60 prochaines années, ce qui serait extrêmement dommageable pour les patients qui pourraient potentiellement bénéficier, évidemment. Et d'ailleurs, le témoignage de Marie illustre parfaitement pourquoi le cadre médical et l'accompagnement psychothérapeutique avant, pendant et après la prise de psychédéliques est fondamental. Si les processus d'introspection et de révision des croyances sont au cœur du processus thérapeutique lié à l'utilisation des psychédéliques, il n'en reste pas moins qu'il faut quelqu'un qui vous conduise sur le chemin, vous tienne la main et vous accompagne en sécurité durant ce périlleux voyage au cœur de soi. Et puis il s'agit aussi d'aider le patient à ancrer l'expérience vécue au cours de plusieurs séances de thérapie, sans prise de psychédéliques, mais on lui demande de se rappeler ce qu'il a compris au cours de la séance, afin de rendre le processus thérapeutique durable. Et quand je demande à Marie si cet apaisement lui semble temporaire ou bien ancré et durable, justement, elle me regarde droit dans les yeux avec un regard plein de joie et d'une énergie nouvelle. « Docteur, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à accepter que la dépression n'était pas qui je suis, mais plutôt quelque chose que j'avais vécu. J'ai réalisé que ma peur de la mort était enracinée dans ma peur d'avoir mal vécu, ou plutôt de ne pas avoir vécu tout ce que j'avais de beau à vivre. Et je ne voulais tout simplement pas que ma vie se résume à de la douleur, à de la tristesse ou aux mauvais souvenirs. Puis j'ai ressenti un profond désir de vivre et de trouver la joie. Et oui, c'est toujours là, Je me souviens de cette sensation de joie profonde et inébranlable. C'est quelque part en moi et j'ai appris à retourner à cet endroit-là quand j'en ai besoin. En comprenant que la vie est une opportunité précieuse, une sorte de source qui coule lentement de génération en génération. Et j'ai commencé à voir la mort comme une partie inévitable de ce cycle. J'ai même eu le sentiment de vivre ce cycle, je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais c'était poignant et surtout très apaisant. Maintenant, la mort, quand j'y pense, ce n'est plus du tout une source de peur, mais plutôt une invitation à vivre pleinement chaque moment. C'est vraiment une profonde transformation qu'a vécu Marie. Au cours de sa séance sous psychédélique, elle a exploré et surtout littéralement remodelé des aspects profonds de son inconscient et cela l'a aidée à mieux accepter l'idée de la mort. Son récit est inspirant et elle a fait preuve d'une incroyable résilience à travers sa capacité à transformer sa relation avec la dépression et la mort. Elle va évidemment continuer à travailler avec l'équipe médicale qui l'a inclus dans ce protocole de recherche pour maintenir cette transformation en vue d'un avenir plus lumineux et je l'espère sincèrement, pour elle, d'une guérison durable. Marie a insisté pour que je précise ici que la présence d'une équipe compétente et attentive à ses côtés tout au long de ce voyage avait été absolument essentielle, dans un cadre médical archi-surveillé, et que l'accompagnement avant et après l'expérience était absolument indispensable et thérapeutique. Elle sait que ses remerciements signifient beaucoup pour moi. Ainsi, chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons encore une fois exploré les rives de l'inconscient pour finalement plonger dans les mystères révélés par les drogues psychédéliques. Notre quête continue car l'inconscient reste un territoire inexploré, une énigme qui continue d'inspirer la philosophie, la littérature, la science et l'âme humaine. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette exploration et vous invite à nouveau à méditer sur ces mots du poète William Blake. Si les portes de la perception étaient dégagées, chaque chose apparaîtrait à l'homme pour ce qu'elle est, infinie. Ce que vous venez d'entendre suscite peut-être des remarques ou des questions. N'hésitez pas à nous les adresser par note vocale sur la page de l'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur 01 56 40 64 04. J'y répondrai avec plaisir le dimanche 12 novembre à 16h sur l'antenne de France Inter.